France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les oppositions contestent l'arrivée de la macroniste Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes. Elle dénonce un risque de conflit d'intérêts. À 40 ans, la ministre des Comptes publics s'apprête à devenir la première femme à prendre la tête de la prestigieuse institution. C'est l'un des points noirs de l'économie française. Le taux de chômage remonte à 7,9%, son plus haut niveau depuis 2021. La situation est particulièrement difficile pour les chômeurs de longue durée. Reportage à Marseille dans ce journal. Le durcissement migratoire de l'Union européenne se confirme avec l'adoption de deux textes au Parlement européen à Strasbourg. Les États membres vont pouvoir renvoyer des demandeurs d'asile dans des pays jugés sûrs comme le Bangladesh, la Turquie ou bien le Maroc. En Corée du Sud, le géant industriel Hyundai veut installer des robots humanoïdes dans ses usines. Les salariés refusent d'être remplacés par des machines. C'est une nomination surprise qui ne passe pas. On l'a appris hier soir, Emmanuel Macron a choisi une fidèle macroniste, Amélie de Montchalin, pour succéder à Pierre Moscovici à la présidence de la Cour des comptes. À seulement 40 ans, l'actuel ministre des Comptes publics va hériter d'un mandat irrévocable, uniquement contraint par une limite d'âge théorique fixée à 68 ans. Pour l'opposition, aucun doute, il y a dans cette nomination un risque de conflit d'intérêts. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Cet après-midi à l'Assemblée, lors de la séance des questions au gouvernement, l'exécutif n'a eu d'autre choix, Rosalie, que de voler au secours de la ministre.
Oui, elle est la cible du jour, jamais pour ses compétences, mais pour ce que cette nomination représente, critiquée d'abord par le président insoumis de la Commission des Finances, Éric Coquerel.
Jamais une personne, 6 mois auparavant, ministre des Comptes publics, n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé.
La socialiste Marietta Caramanli pointe le même souci.
Je circuit très court. Pose problème.
Yoann Gillet, au Rassemblement National, prend le relais.
Une honte, une audace, une provocation, une dérive illibérale. La République des copains à ciel ouvert. La République de ceux qui savent qu'ils vont être sortis par les Français du pouvoir et qui, avant de partir, tentent de tout verrouiller.
Amélie de Montchalin est au banc. Elle regarde passer les balles, mais jamais ne répond.
La parole est à Madame Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement.
Sous les huées.
Ce n'est que moi.
C'est donc Maud Bréjon qui tente à chaque fois avec les mêmes arguments de justifier le choix du chef de l'État.
Amélie de Montchalin sera première présidente de la Cour des comptes, mais elle travaillera au quotidien avec 8 présidents, ce qui font de la collégialité des choix qui sont faits.
La Cour des comptes fonctionne avec une collégialité.
Je le dis, il y a des décisions qui sont des décisions collégiales. Et par ailleurs, Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Nous avons confiance dans le mécanisme de la Cour et nous avons confiance dans la rigueur intellectuelle et morale d'Amélie de Montchalin.
Plusieurs camps appellent le président à revenir sur sa décision, mais Emmanuel Macron est libre pour cette nomination. Contrairement à d'autres, celle-ci ne nécessite de la part du Parlement aucune approbation.
Rosalie Lafarge, merci. La nomination d'Amélie de Montchalin doit être effective demain lors du Conseil des ministres. Amélie de Montchalin qui deviendra alors la première femme à présider la Cour des comptes. Un mauvais chiffre ce soir dans l'actualité économique. Le taux de chômage est au plus haut depuis 2021. 7,9% de la population active sans emploi au quatrième trimestre 2025, selon les derniers chiffres de l'INSEE. La hausse est particulièrement marquée chez les jeunes, 21,4% de chômeurs chez les 15-24 ans. Si le chômage longue durée est stable avec 580 000 personnes touchées, la recherche d'un emploi après plus d'un an d'inactivité reste une épreuve, surtout quand on a plus de 50 ans, comme l'a constaté Mathilde Vinceneux à Marseille.
À la sortie de cette agence France Travail dans le centre-ville de Marseille, ce sont surtout les plus de 50 ans qui témoignent de leur long combat pour retrouver du travail, comme Pierre avec sa pochette sous le bras.
Je suis dans la logistique, ça fait 2 ans que je cherche du travail, j'ai 60 ans et je me rends compte que j'envoie beaucoup de CV, je n'ai pas de réponse. Et quand j'ai un entretien, on me fait comprendre que mon âge est un problème. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que rechercher un emploi en 2026, c'est vraiment la galère, la super galère. Voilà.
Clémentine confirme, à 63 ans, elle aimerait retrouver un emploi d'aide à la personne pour pouvoir terminer de cotiser pour sa retraite. Mais là encore, son âge pose problème.
C'est pas notre faute, c'est nous, on n'est pas nés avec un ordinateur dans les mains. Moi, dépendre du chômage, c'est pas mon truc. C'est la première fois de ma vie. Il y a de quoi faire une dépression.
Ça pèse sur le moral, acquiesce Simon, 57 ans.
Moi, j'étais chauffeur routier, j'ai perdu mon permis. Donc, je ne pouvais plus exercer. J'ai trouvé dans la maçonnerie en tant que manœuvre. Donc j'ai travaillé, bon, la société a coulé, elle a fermé. Je me suis inscrit au Pôle emploi depuis 2021 et j'arrive pas à trouver de travail.
Simon vit aujourd'hui du RSA et il essaye de repasser son permis pour mettre toutes les chances de son côté.
Mathilde Vinceneux à Marseille, avec ce taux de chômage de 7,9%, Emmanuel Macron ne pourra sans doute pas tenir l'une des promesses phares de sa campagne en 2022, ramener ce chiffre sous la barre des 5% d'ici la fin de son mandat en 2027. Le chef de l'État qui était à Dunkerque aujourd'hui pour confirmer un important investissement sur le site d'ArcelorMittal. Le géant de l'acier va construire un four électrique, son plus gros en Europe, dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, montant de l'investissement 1,3 milliard d'euros. Le four doit entrer en service courant 2029. La CGT d'ArcelorMittal reste prudente. Elle veut une date ferme pour le début des travaux. C'est une affaire hors norme révélée ce matin par le parquet de Grenoble. Un homme de 79 ans, soupçonné de viol et d'agression sexuelle aggravée sur 89 mineurs. Il est aussi accusé d'avoir tué sa mère et sa tante. Cet homme est en détention provisoire depuis 2 ans. Mais après la découverte de nouveaux éléments, le parquet de Grenoble a décidé de lancer un vaste appel à témoins. Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir.
Les faits les plus récents datent de 2022, les plus anciens de 1967. Une grande partie est donc prescrite.
Oui, tous les actes commis avant 1993. Et c'est la raison pour laquelle cet appel à témoins est lancé maintenant, pour ne pas perdre plus de temps. C'est en 2023 que le neveu du suspect a remis aux gendarmes de Vizille, en Isère, des clés USB appartenant à cet ancien professeur sans casier judiciaire. Sur ces clés étaient consignées ses mémoires et notamment le récit de ses rapports sexuels avec de jeunes garçons de 13 à 17 ans. La majorité des victimes se trouvent dans le sud-ouest, mais d'autres jeunes vivaient en Nouvelle-Calédonie et dans 8 pays dans lesquels cet homme s'est installé pour faire du soutien scolaire ou enseigner, notamment au Maroc, en Colombie, en Inde ou encore aux Philippines. Alors vous imaginez la difficulté pour les enquêteurs de retrouver toutes ces victimes, d'autant que leurs noms de famille ne sont pas toujours mentionnés dans les mémoires. Le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteau, a donc décidé de rendre publique l'identité du suspect. Le nom de Jacques Leveugle doit être connu, explique-t-il, pour permettre à d'autres victimes éventuelles de se manifester. Le procureur a aussi précisé le profil psychologique du suspect au micro de Théo Hetch d'ici Isère.
Il se décrit dans ses mémoires comme un gentleman boy lover, évoquant des vieux démons qui le poussent à agir ainsi. Sa façon d'agir passe par une séduction intellectuelle du mineur, et du côté sexuel, l'approche se fait ensuite par le rire. Prenons l'exemple des Grecs où les adultes adoptaient un jeune homme pour l'éduquer intellectuellement et sexuellement.
Dans ses mémoires, Jacques Leveugle écrit aussi qu'il a volontairement donné la mort à sa mère, atteinte d'un cancer en phase terminale, et à sa tante, âgée de 92 ans. Une enquête distincte a été ouverte pour ces faits.
Explication signée Aurélie Kiefer. Pourquoi des CRS ont-ils matraqué des gilets jaunes réfugiés dans un Burger King de l'avenue de Wagram le 1er décembre 2018 à Paris? Une question au cœur du procès des 9 policiers jugés depuis hier en correctionnel. 8 CRS sont présents à l'audience, mis en examen pour violence volontaire. Ils ont admis avoir manqué de lucidité lors de leur premier interrogatoire. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
En direct du tribunal judiciaire de Paris, Florence, après les CRS hier et ce matin, le tribunal a entendu cet après-midi 4 parties civiles, un journaliste, un jeune couple et un autre manifestant, tous encore traumatisés par ce qu'ils ont subi.
C'était pour l'une et l'autre leur première manifestation. Intention totalement pacifique, affirmée par tous les deux, des valeurs écologiques et sociales. Pour Nathan Artaud, 26 ans alors, qui a encaissé 27 coups de pied et de matraque. La difficulté de joindre les deux bouts pour la jeune maman de Compiègne. L'augmentation de l'essence, c'était trop, poursuit Manon Retourné. À Paris, avec son compagnon, elle se retrouve, place de l'Étoile, à la recherche d'un métro pour rejoindre la gare du Nord. Ça bombardait de partout, un nuage de fumée a coupé au couteau. Impossible de respirer, on entend « venez par là », il s'engouffre dans le Burger King. J'avais les yeux brûlés, on essayait de reprendre nos esprits, de se poser. Sa voix s'emballe au fur et à mesure qu'elle raconte la scène. Les CRS entrent, ils veulent en découdre. Max a l'instinct de me protéger. À travers lui, je ressens les coups. On crie, on n'a rien fait, et eux qui tapent, je hurle. Je vois qu'ils saignent au visage. Elle se découvre le lendemain un gros hématome qui s'étend sur son bras. Un air touché, et sans doute, lui ont dit les médecins, une douleur à vie. Elle frotte son coude gauche, c'est toujours là, comme une brûlure. Le traumatisme aussi ravivé en permanence, cela peut être un choc, une odeur, une couleur. Je pensais que le temps résoudrait les choses, enchérit Nathan Artaud au bord des larmes. Mais le temps n'a pas suffi, c'est encore douloureux. Je tremble quand je vois un policier en uniforme. Et vous attendez quoi de ce procès ? Des excuses, répond-il, qu'on ne me parle pas d'un manque de lucidité. C'est depuis hier le sens de toutes les dépositions des policiers. Tous ont décrit une journée d'insurrection avec le sentiment d'avoir été abandonné par la haute hiérarchie. Bien sûr, ils n'auraient pas dû vivre ça, reprend Manon Retourné, la voix nouée, mais ils ont traumatisé une vie. Pour rien, il faut que cette violence gratuite soit reconnue dans ce procès. On aurait tous pu finir cette journée bien autrement.
Compte rendu d'audience de Florence Thurme depuis le palais de justice de Paris avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques. Le procès se terminera jeudi avec le réquisitoire et les plaidoiries. La crise politique attendra au Royaume-Uni. Keir Starmer n'a pas l'intention de démissionner malgré sa mise en cause dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le Premier ministre britannique n'apparaît pas dans les nouveaux documents dévoilés par la justice américaine, mais il lui est reproché d'avoir nommé ambassadeur à Washington Peter Mandelson, une figure du Parti travailliste qui avait des liens très étroits avec le financier pédocriminel. Après une journée difficile hier, Keir Starmer a pris la parole aujourd'hui pour balayer les appel à la démission, Laura Calmus.
Ça a été une semaine chargée, a-t-il plaisanté. Nous ne sommes pourtant que mardi. C'est lors d'une réunion dans un centre social dans le nord de l'Angleterre que Keir Starmer a choisi de prendre la parole en pleine tempête politique. Le Premier ministre insiste et se veut inflexible.
Je ne renoncerai jamais au mandat qui m'a été confié pour changer ce pays. Je ne renoncerai jamais aux personnes pour lesquelles je suis chargé de me battre. Et je ne renoncerai jamais au pays que j'aime.
Objectif affiché de cette visite, parler du coût de la vie, mais il en a profité pour passer un message clair aux partis d'opposition.
Le combat qui s'annonce en politique, le véritable combat, ne se déroule pas au sein du Parti travailliste. Il oppose la politique de droite qui le conteste, la politique de la réforme, la politique du divisé, 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 les ressentiments, ressentiments, ressentiments qui déchireront notre pays. C'est le combat dans lequel nous sommes engagés et je mènerai ce combat tant que j'aurai encore un souffle de vie.
Un message martelé alors que le Labour traverse de fortes tensions internes. Une tentative claire de reprendre le contrôle du récit en se recentrant sur le quotidien des Britanniques au moment où le Labour sort de 24 heures de turbulence et où l'opposition conservatrice continue, elle, de juger sa position fragile.
Laura Calmus, correspondante à Londres. En France, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ne veut pas d'une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein. La commission ne doit pas être en concurrence avec la justice, a-t-elle expliqué sur Europe 1. Une réponse à la France Insoumise qui demande une commission transpartisane pour donner la parole aux victimes et pour enquêter sur d'éventuelles ingérences politiques dans cette affaire Epstein. Le Parlement européen durcit la politique migratoire de l'UE. Les eurodéputés ont définitivement adopté aujourd'hui à Strasbourg deux textes clés. Ils permettront notamment aux 27 États membres de renvoyer des demandeurs d'asile vers des pays considérés comme sûrs. Une formule déjà testée par la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a ouvert des centres en Albanie. Ce durcissement a été rendu possible par une alliance entre la droite et l'extrême droite européenne, Agnès Vogel.
Les deux textes largement approuvés par les députés européens vont bien au-delà du pacte asile-migration voté en 2024. Pour la première fois, l'Union se dote d'une liste commune de pays d'origine considérés comme sûrs, ce qui limitera les possibilités d'asile pour leurs ressortissants et accélérera les procédures pour le traitement des demandes comme pour les rapatriements. Ces pays d'origine considérés comme sûrs sont le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie, et tous les pays candidats, dont la Turquie. La deuxième mesure concerne la possibilité de renvoyer des demandeurs d'asile vers des pays tiers, donc non membres de l'Union, dont ils ne sont pas originaires, qu'ils n'ont même pas forcément traversé, mais que l'Europe considère comme sûrs. Et cela inquiète beaucoup l'eurodéputé Renew, Fabienne Keller, qui avait porté le pacte asile-migration sous la précédente législature.
Pays tiers sûrs, c'est une notion inefficace et dangereuse, parce qu'au lieu de gérer sur le territoire de l'Union les personnes qui viennent, même irrégulièrement, d'examiner leurs droits, eh bien on propose de les renvoyer. Ces pays tiers, c'est le Rwanda, qui a été tenté d'ailleurs par le Danemark et le Royaume-Uni. Ces personnes, par ailleurs, pourront être instrumentalisées par le pays d'accueil contre l'Union européenne quand elles seront nombreuses, par exemple.
La gauche et les écologistes dénoncent une fragilisation du droit d'asile et une déshumanisation de la politique migratoire, alors que les arrivées irrégulières ont déjà baissé de 25% au cours de l'année écoulée.
Agnès Vogel, depuis le Parlement européen à Strasbourg. La Russie continue à limiter les libertés numériques pour sa population. Après le blocage de YouTube, Facebook et Instagram, Moscou va mettre en place des restrictions progressives sur la messagerie Telegram, la plus populaire dans le pays avec WhatsApp. Motif invoqué, Telegram serait utilisé à des fins criminelles et terroristes en violation de la loi russe. Derrière ce tour de vis, il y a surtout la volonté du Kremlin d'imposer Max, sa propre messagerie nettement moins sécurisée. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
À vrai dire, l'annonce de Roskomnadzor, le gendarme de l'Internet en Russie, n'a surpris personne ici. WhatsApp est déjà largement perturbé depuis cet été. Au travail, dans les écoles, de nombreux groupes de collègues, de parents d'élèves avaient déjà migré vers Telegram. Mais le répit a été de courte durée. La solution qui se profile maintenant s'appelle Max, une application russe développée par des proches du Kremlin, poussée par le pouvoir à grand renfort de publicité, mais dont tout le monde sait qu'elle n'est pas sécurisée et totalement transparente pour le FSB, les services de sécurité. Comme de nombreux Russes, Maria, rencontrée dans la rue à Moscou, rechigne à utiliser Max.
Je ne l'ai pas encore installé, mais je vais être obligée. WhatsApp est en train de disparaître. Telegram aussi bientôt. Maintenant, les services publics ne sont que sur Max. Si l'école maternelle passe aussi sur Max, je n'aurai pas le choix. Que voulez-vous faire ?
Reste que le blocage progressif de Telegram est tout de même un choc pour de nombreux Russes. Même certains propagandistes du Kremlin critiquent cette décision ce soir sur leur fil Telegram. Le fondateur de Telegram, le russe Pavel Durov, installé à Dubaï, n'a pas encore réagi. Il affirmait pourtant il y a peu que la France n'était pas un pays libre après l'ouverture d'enquête visant Telegram ou le réseau social X.
En Corée du Sud, le développement du géant industriel Hyundai passe par des robots humanoïdes, des robots développés par l'entreprise elle-même pour qu'ils travaillent comme des humains sur les chaînes de production de ses usines. Une innovation technologique majeure qui constitue aussi un défi pour l'emploi. Les salariés de Hyundai ne veulent pas être remplacés par ces 30 000 robots prévus d'ici la fin 2030. Le reportage en Corée du Sud de Celio Fioretti.
C'est à l'occasion du Consumer Electronics Show à Las Vegas, début 2026, que Hyundai a dévoilé Atlas, un robot bipède dernière génération, semblable à un petit homme. 90 kg d'électronique, dont 30 000 exemplaires, rejoindront les lignes de production de la marque d'ici la fin de la décennie. Zachary Jakowski, vice-président de Boston Dynamics, propriété de Hyundai Motors et à l'origine du robot Atlas, met en avant tous les avantages d'une telle technologie dans l'industrie.
Atlas bouge encore plus efficacement qu'un humain, surtout dans un environnement industriel de production où chaque seconde compte. Cet exemple montre à quel point les robots que nous créons rendent les lieux de travail plus sûrs et les hommes plus productifs.
L'entreprise met en avant la sécurité en éloignant les ouvriers des tâches dangereuses. Mais pour les salariés de Hyundai, l'arrivée de ces robots est une menace pour leurs emplois. Ils ont déjà annoncé tout mettre en œuvre pour empêcher leur installation dans les usines. Aux ateliers de métallurgie de Dongjin, Kim Anju est responsable syndical de Hyundai et n'est pas convaincu par les promesses de l'entreprise.
L'impact sur l'emploi sera inévitable. Et si l'impact sur les travailleurs est inévitable, il est tout simplement logique de commencer par dialoguer avec eux. Hyundai avait déjà fait quelque chose de similaire l'an passé en introduisant des chiens robots dans les usines. Ils disaient qu'ils veilleraient à notre sécurité, mais ce sont plutôt des dispositifs de surveillance qui ont été déployés sans notre accord.
Est-ce que vous pensez que l'apport de ces technologies peut quand même vous aider dans votre travail ?
Le progrès technologique fait partie de l'histoire de l'industrie. Le problème aujourd'hui est que la question des humanoïdes évolue uniquement dans une logique de remplacement du travail humain et non de complémentarité. Et c'est à cette condition que l'on pourra garantir l'égalité et la durabilité de nos sociétés humaines.
La Corée du Sud est déjà le pays qui emploie le plus de robots au monde, avec plus de 1000 robots pour 10 000 employés en 2025. Une tendance amenée à s'accentuer dans les années à venir, mais qui risque de créer d'importants conflits entre salariés et entreprises.
Célio Fioretti, correspondant à Séoul. Le temps demain, très agité et trop doux pour la saison. Une quinzaine de départements en vigilance orange pour le vent et les crues, notamment en Auvergne, en Aquitaine et en Bretagne. Demain matin, il fera entre 6 et 12 degrés en général. L'après-midi, grande douceur, de 10 à 14 degrés sur la moitié nord jusqu'à 18 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique d'Ali Yaha.